Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Claire Petitjean. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc accompagnatrice auprès du SMRD pour le SAGE.
Oui, j'accompagne la révision du SAGE au sein du syndicat mixte de la rivière Drôme et de ses affluents.
Avant tout, on peut peut-être présenter ce qu'est le SAGE aux auditeurs.
Un SAGE, c'est un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est concrètement un document de quelques centaines de pages qui organise ou qui récapitule les politiques locales de l'eau. Donc c'est une sorte de feuille de route qui organise la politique de l'eau, qui, dans le but d'atteindre une gestion durable et équilibrée de l'eau sur le territoire. C'est bien le but du SAGE. On voit qu'en France, on n'a pas tous les territoires qui sont équipés d'un SAGE. Donc en absence de SAGE, on a une gestion plutôt par des politiques nationales ou de bassins. Et on n'a surtout pas d'espace de concertation pour les acteurs au niveau local. Parce que quand on a un SAGE sur un bassin versant, on a avant tout une clé, une commission locale de l'eau, qui réunit tous les usagers ou tous les représentants d'usagers et les élus autour de la table pour discuter des grands projets ou des politiques locales de l'eau. Et donc c'est vrai qu'en l'absence de SAGE, un territoire ne permet pas un espace de concertation. Donc ça c'est un vrai avantage d'avoir un SAGE, mais surtout une clé pour avoir des espaces de dialogue entre les représentants de l'État, les représentants des communes et puis les représentants des usagers.
Quel est l'impact de cette présence du SAGE justement sur certains territoires? Comment est-il ressenti par les représentants?
Très souvent, un SAGE, comme je le disais, il permet surtout un espace de dialogue. Donc c'est vrai que l'impact, on le mesure surtout quand on n'en a pas. C'est-à-dire, si on n'a pas de SAGE, il y a une décision d'État qui est prise, il n'y a pas d'espace pour en dialoguer pour la mise en œuvre au niveau local, et donc il doit être appliqué de fait sur le territoire. On applique les décisions d'État, mais on a un espace de dialogue pour discuter des spécificités locales. Quand on a, par exemple, des tensions sur la quantité d'eau, on a les représentants des irrigants, mais on a aussi les pêcheurs, on a les représentants des loueurs de canoës et d'autres personnes qui se réunissent pour voir et confronter leurs points de vue, pour prendre des décisions ensemble. Et c'est pour moi une grande richesse pour un territoire. Donc ça, une vraie valeur ajoutée, c'est l'espace de dialogue et de concertation pour que les gens et les représentants se voient, puissent discuter entre eux et puis prendre connaissance des décisions qui sont prises.
Donc vous êtes en quelque sorte une représentation des politiques nationales sur l'eau?
Alors moi, j'accompagne la révision du SAGE. Le syndicat mixte de la rivière Drôme, donc le SMRD, lui anime la clé, donc la commission locale de l'eau, qui rédige, elle, le SAGE. Et donc, pour la mise en œuvre du SAGE, il peut être mis en œuvre par le SMRD, mais pas seulement, par les communautés de communes, par exemple, ou par certaines communes, ou par des fédérations ou des associations. Tout le monde pourrait finalement mettre en œuvre le SAGE au quotidien. Donc, le SMRD, lui, anime le SAGE et anime la clé, surtout.
Avant de continuer, on va peut-être présenter ce que sont les spécificités de la rivière Drôme, par exemple.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre de révision de SAGE. Donc, il a fallu, pour réviser le SAGE, dresser un état des lieux, comme à chaque fois qu'on change en fait, des politiques ou de projets. On doit repartir de l'existant. Donc, il y a un état des lieux du territoire qui a été dressé sur la base des données du SMRD, mais aussi de tout producteur de données sur le territoire. Et puis, à l'issue de cet état des lieux, une stratégie est construite pour savoir comment on oriente le territoire pour les 5 ou les 50 prochaines décennies. Et puis après, des actions sont déterminées pour atteindre ces objectifs. Donc sur cet état des lieux, Il apparaît, donc c'est un état des lieux qui évolue, donc on en fait un tous les 6-8 ans en fonction des révisions du sage. Il apparaît évidemment, alors évidemment pas forcément, mais il apparaît qu'on est quand même dans un territoire qui manque d'eau. Donc ça c'est quelque chose de connu depuis les années 90, mais qui s'accentue. Donc on a quand même un manque important d'eau. On est dans une zone de répartition des eaux, donc ce qu'on appelle une ZRE, c'est-à-dire un espace qui consomme plus d'eau que ce que le territoire peut produire. Ça, c'est la base dans le territoire. C'est-à-dire qu'on consomme plus que ce que le territoire nous offre. Donc là, on est dans un espace qui est en déficit d'eau. Donc il y a des mesures à prendre au sérieux et puis à mettre en œuvre. Des mesures portées par différents secteurs, que ce soit l'agriculture, mais aussi pour l'alimentation en eau potable et puis pour l'industrie. Donc ça, c'est un constat important. Après, au niveau de la qualité d'eau, on voit que sur la qualité, on est globalement bon sur l'ensemble du bassin versant. Il faut rappeler que le bassin versant de la Drôme, quand même, parle de la bâtie des fonds jusqu'à la confluence avec le Rhône. Donc, on draine, c'est un mot important, mais il y a environ 80 communes sur le territoire. Donc, c'est assez important, un espace assez large. Il y a 50 000 habitants. Donc, dans cet espace, il y a forcément, il y a des points noirs, c'est-à-dire des communes qui, aujourd'hui, peuvent avoir des dégradations, notamment de l'eau potable au sein de l'eau brute qui est pompée dans le territoire. Et puis, pour les cours d'eau, les sources de déclassement de la qualité des cours d'eau, parce qu'une qualité s'évalue sur une qualité physico-chimique, mais aussi, on va dire, écologique. Quelle présence d'espèces vivantes sont répertoriées sur le territoire ou dans le cours d'eau, et puis comment la rivière sinue. Donc les critères de déclassement sont souvent liés à la morphologie du cours d'eau, c'est-à-dire à la présence de digues ou d'endiguements qui contraignent la rivière et qui l'empêchent de sinuer naturellement. Cependant, on a eu des déclassements de cours d'eau, notamment au regard de la qualité d'eau de baignade pendant l'été, où là, souvent, ce sont des assainissements non collectifs qui ne sont pas aux normes, donc des rejets sauvages dans la rivière, avec la présence de bactéries qui sont nocives et qui, du coup, peuvent être présentes dans l'eau de baignade.
Effectivement, le problème récurrent de chaque été, c'est l'interdiction de baignade dans la rivière à certains endroits, due à cette pollution. Est-ce que ça évolue, ça, ce problème, ou alors ça nécessite des moyens, pour l'instant, inabordables ?
Alors, les problèmes évoluent. Je ne dirais pas que l'interdiction est présente depuis tant d'années. Elle est parfois présente parce qu'au moment de la mesure, il y a un rejet sauvage. Alors, les rejets sauvages, ils sont là. C'est un engagement avant tout des particuliers de mettre aux normes leur assainissement, de ne pas d'être conscient qu'un rejet direct en rivière a un impact sur les milieux de manière importante. Qu'en général, on infiltre de l'eau usée dans le sol, parce que le sol est en capacité de traiter l'eau avant que les pollutions atteignent soit la rivière, soit la nappe. Donc ça, c'est un engagement qui dépend au niveau de la structuration de l'État du SPANC, donc le service public d'assainissement non collectif, qui lui propose des contrôles ou impose des contrôles dans chacune des habitations en assainissement non collectif, donc c'est-à-dire non raccordé à un égout. Pour ceux qui sont raccordés à l'égout, eux dépendent d'une station d'épuration. Et là, les stations d'épuration, aujourd'hui, présentent des conformités assez exemplaires sur le territoire.
Est-ce qu'il existe toujours cette participation financière pour justement traiter les eaux usées chez les particuliers avec l'installation de filtres souterrains avant d'être rejetés dans les terres ?
Alors, en assainissement, la politique veut qu'il y ait vraiment deux zones séparées, celle qui est de l'assainissement collectif, donc raccordé à l'égout, où là, le financement se fait à partir de la facture d'eau, parce qu'on a des difficultés finalement techniques de mesurer l'eau usée, parce que c'est une eau qui n'est pas sous pression dans une canalisation, donc elle est difficilement mesurable. Donc on mesure la quantité d'eau potable consommée et au prorata, on assigne un tarif dédié à l'assainissement. Et puis pour ceux qui sont dans des zones d'assainissement non collectif, dans des zones souvent peu peuplées, où il y a moins de densité de population, là, on sous-entend qu'il y a une possibilité d'infiltrer à la parcelle l'eau usée. Et donc là, le financement se fait par le financement des contrôles du service d'assainissement non collectif, donc du SPANC. Donc là, c'est un règlement, il me semble, selon les règlements d'assainissement, 6 à 8 ans, ça dépend des communautés de communes ou des services.
Et donc, actuellement, vous êtes en révision des statuts du SAGE ou du programme du SAGE pour l'avenir.
Oui, donc le SAGE, le dernier SAGE Drôme, a été validé en 2013. Donc aujourd'hui, 6 ans. Pourquoi le réviser ? C'est bien le mettre à jour aux nouvelles données du territoire, voir comment le territoire évolue. Est-ce qu'il y a eu des gros accidents, des grandes crues ou des montées de population ou moins de population pour adapter la politique local de l'eau, et puis aussi le mettre à jour aux évolutions réglementaires et de l'Agence de l'eau. On dépend de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Pourquoi ? Parce que simplement, aujourd'hui, la Drôme se jette dans le Rhône, et donc on ne peut pas seulement avoir une vision à l'échelle de notre bassin versant, on a aussi un impact sur le Rhône et puis l'ensemble du bassin versant lié à la Méditerranée. Donc on a plusieurs niveaux d'organisation des politiques, l'échelle communale, puis après intercommunale, puis après bassin versant pour nous, pour la gestion de l'eau, et après de grands bassins. Donc notre grand bassin, c'est le Rhône Méditerranée Corse, et donc ils ont aussi des préconisations à l'échelle de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse auxquelles on doit se conformer. Et puis, en fonction des données du territoire, on réadapte les politiques. Donc on voit qu'au vu des nouvelles données, par exemple, le manque d'eau a tendance à s'aggraver. L'arrivée du changement climatique ou du dérèglement climatique est quand même devient prépondérant. Donc on a des incertitudes sur l'avenir. On doit engager des actions qui sont importantes pour pouvoir déjà protéger les générations futures, pour leur assurer de l'eau pour l'alimentation en eau potable, ce qui est quand même l'enjeu numéro un, c'est d'amener de l'eau potable à tous, et en qualité et en quantité. Et puis après, assurer que les activités économiques, comme l'agriculture, le tourisme, qui sont les activités les plus présentes sur notre territoire, puissent soit se maintenir ou soit se développer. Donc la révision de ce nouveau SAGE, elle a une particularité, c'est qu'elle a été déjà nourrie par les résultats d'une longue participation citoyenne au travers du projet SPAR, donc une des raisons pour laquelle on s'est vu la dernière fois. Donc le projet SPAR, c'est un projet européen qui a permis d'avoir pendant 3 ans de régulières interactions avec le public pour qu'on puisse collecter, nous gestionnaires des milieux aquatiques, l'avis et les envies et les perceptions du public pour affiner finalement cette politique aujourd'hui. Et puis, depuis, la réglementation nationale a évolué et on a eu à renouveler cette expérience de participation citoyenne par une nouvelle obligation nationale qui était que dans la révision des SAGE, on doit engager une concertation du public, chose qui a été réalisée courant mars avec le public. On a à nouveau une centaine de personnes qui ont pu participer à la construction de la stratégie de ce SAGE, cette fois-ci, de manière très concrète. Donc, dans un premier temps, d'exprimer quels étaient pour eux les défis à affronter ou à réaliser sur le territoire, et puis de participer directement à la rédaction de cette stratégie. Donc on a aujourd'hui une stratégie en projet qui va être soumise à la Commission locale de l'eau, à son vote la semaine prochaine, qui est issue du travail de la CLÉ en concertation, mais aussi de la concertation du public, où on a un apport direct du public. Et j'ai noté quelques remarques de membres de la CLÉ qui disaient « Oh, on est surpris de la richesse, en fait, des apports du public. On ne pensait pas qu'il y avait des apports aussi techniques. » Et c'est vrai que c'est un vrai apport d'avoir pu rédiger ce document avec le public cette fois-ci directement, parce qu'on voit que déjà, il y a une prise en compte du document, il y a une compréhension. Et puis en plus, on a de nouveaux éléments qui sont injectés dans cette stratégie et qui proviennent directement du public. Donc on espère que cette stratégie sera encore plus à l'image du territoire. Et puis après, l'enjeu, c'est de la décliner en actions à réaliser et puis évidemment de mettre en œuvre les actions.
Alors justement, vous avez opéré une consultation auprès du public ces deux dernières années, hein, qui a abouti à cette nouvelle stratégie. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort en premier, particulièrement auprès du public ?
Alors, il en ressort plusieurs points. En termes de perception, on remarque que ce qui est le plus perçu par les citoyens, finalement, usagers du territoire, ça serait la qualité de l'eau, les déchets avant tout, et puis les pollutions. Donc, on parle beaucoup de pollution. On voit une influence possible des médias, par exemple, sur la notion sur le terme glyphosate, qui est assez présent et qui finalement n'est pas physiquement présent sur le territoire. Donc, on a quand même des influences extérieures. Donc là, on est sur la perception. Des perceptions qui sont, bon, évidemment, sur l'environnement, donc tout ce qui est biodiversité, tout ce qui va être la baignade, les activités de loisirs, notamment de la baignade. Par contre, en termes d'envie, quand on a pu classer les résultats en fonction des envies et des perceptions, en termes d'envie, il y a de fortes attentes sur la réglementation, donc de soit réguler certains usages, donc interdire les feux, faire plus de contrôle, ce qui est assez surprenant finalement, parce qu'on pourrait penser qu'il y ait des attentes de moins de contrôle, mais il y a des attentes en termes de contrôle. En termes d'articulation des politiques entre les différents acteurs, c'est-à-dire que la commune puisse travailler plus directement avec l'urbanisme qui travaille directement avec les communautés de communes qui travaillent directement avec le SMRD. Donc avoir tous ces acteurs publics qui puissent être plus liés entre eux. Donc il y a ces attentes-là et puis de fortes attentes en termes d'information et de sensibilisation.
En gros, il y a peut-être une correction à faire dans l'articulation de tous ces services.
Une correction, une amélioration, disons que c'est l'organisation actuelle. On a par exemple la compétence baignade qui est aujourd'hui dans la main des communes. On a la compétence par exemple des déchets qui est dans la main des communautés de communes. Et nous, on va gérer les milieux aquatiques. Donc on voit bien qu'il y a des espaces où, comme les zones de baignade où on pourrait facilement mettre une poubelle dans l'idée, mais ce n'est pas si facile. Parce que la baignade est dans les mains des communes et les déchets dans les intercommunes. Et au niveau intercommunal. Et puis, au niveau du SMRD, les milieux, l'impact sur les milieux. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des espaces de discussion et puis des actions qui peuvent se mettre en œuvre, en fait. Simplement, ça peut prendre plus de temps parce qu'on a budgétairement des budgets différents, donc déjà de fait. Et puis, dans l'organisation des projets, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais ça ne devrait pas être une limite pour le territoire.
Cette révision du SAGE impose des bouleversements ou peut-être une autre manière de travailler dans l'avenir ?
Bouleversement, non, parce que finalement, les gros traits du territoire qui sont avant tout le manque d'eau et puis maintenir la qualité de l'eau restent présents. Le bouleversement, il est plus dans la compréhension. On a compris que le public attendait d'être mieux informé. Et aussi, il y avait une envie de participer. Donc aujourd'hui, on essaie de rendre ces 200 pages de SAGE accessibles. Alors peut-être pas par le document final, mais par plus de relations avec le public, plus de sensibilisation. Et puis laisser aussi la place au public pour intervenir, donc pour contribuer à l'amélioration des milieux. Donc on voit les problèmes techniques qui sont le manque d'eau. Mais dans le manque d'eau, prenons juste cet exemple, le manque d'eau, bon, il y a l'irrigation agricole. On voit que le monde agricole s'est engagé et a déjà initié et fait de nombreux projets pour limiter les besoins en irrigation. On voit que depuis les années 90, une des actions phares a été de ne plus autoriser de nouvelles surfaces irriguées sur le territoire. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important sur un territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus développer la surface irriguée sur le territoire depuis les années 90. C'est-à-dire qu'il y a eu un gel des surfaces irriguées. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus développer la surface irriguée sur le territoire. Donc on ne pouvait plus. Par exemple, si on a 100 mètres carrés de surface irriguée aujourd'hui, on ne pourra plus en avoir 101. On pourra en avoir moins, mais on ne pourra jamais en avoir plus. Ça, c'était une mesure phare des années 90, parce qu'on avait ce manque d'eau qui est quand même pas seulement une idée, mais une réalité. Et il y avait une vraie tension pour des personnes qui ont des besoins ou qui ont des attentes économiques sur l'irrigation, par exemple. C'est des conséquences importantes le jour où il n'y a plus d'eau. Donc, ce n'est pas seulement du confort. Là, on parle d'activité économique et des familles qui en dépendent. Donc, du coup, il y avait cette tension. Donc, il y a eu ce choix de geler les surfaces irriguées, donc ne plus développer de nouvelles surfaces irrigables sur le territoire, mais ça n'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, en 2006, il y a eu une réserve, celle des Juanons, qui a été créée, donc une réserve d'eau intersaisonnière, c'est-à-dire on régule l'eau de l'hiver pour la transmettre l'été. Et ce n'est pas toujours suffisant. Donc on a aujourd'hui un projet de substitution où les réseaux d'irrigation agricole ont un projet d'amener l'eau du Rhône vers la zone aval du territoire pour limiter les prélèvements sur le bassin versant de la Drôme et notamment sur la rivière Drôme.
Et ça va nécessiter d'énormes coûts, cette politique ?
C'est des coûts importants, mais c'est des soutiens. Alors pour cette fois-ci, il y a un soutien financier et puis c'est un investissement de la part des irrigants parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il faut rappeler que si aujourd'hui un irrigant, par exemple, irrigue du maïs, c'est bien qu'il y a une demande. Aujourd'hui, on ne peut pas seulement incriminer le producteur de maïs. Et aujourd'hui, il répond à une demande. Et le maïs, notamment, il est produit pour l'élevage. Si quelqu'un voudrait limiter, par exemple, la surface de maïs sur son territoire, le mieux, ça serait de manger moins de viande, indirectement. Donc c'est vraiment des mécaniques où il faut essayer de comprendre un petit peu plus ce qui agite derrière les tensions. Alors le monde agricole est en route. Effectivement, il a mis en place de nombreux projets. Aujourd'hui, concrètement, c'est pas suffisant. Donc on attend les nouveaux projets pour qu'ils puissent éclore. Et puis après, on a le monde industriel qui, lui, a mis très rapidement en place des efforts techniques sur les processus de fabrication et de production qui ont permis d'atteindre les réductions de prélèvements attendues sur le monde industriel. Et puis après, on a toute la population raccordée à l'eau potable, où on peut se rappeler qu'au début du siècle, on était sur un bassin versant plus peuplé qu'aujourd'hui et qu'on consommait beaucoup moins d'eau. Donc là, c'est une donnée très importante, c'est qu'on consomme beaucoup d'eau potable. On a perdu une distance par rapport à la ressource où on ne se mesure plus l'impact qu'on a sur nos consommations excessives. Et on voit notamment le développement important, par exemple, des forages individuels, des prélèvements en canaux, où là, possiblement, on a accès à une eau gratuite, mais ce n'est pas non plus une eau qui est déconnectée de ça. Ce n'est pas parce qu'on ne la paye pas qu'il faut la consommer et la gâcher. Aujourd'hui, ça reste l'eau du territoire. Et je pense qu'il faut être conscient qu'il faut l'utiliser de manière juste et d'en mesurer les conséquences. Et puis, il y a tous ces gestes quotidiens qu'on peut tous se faire, hein, que ce soit à la maison, par notamment lutter contre les fuites à la maison, c'est la première chose, éventuellement investir sur certains équipements, et puis que ce soit la différence entre un bain, une douche, on les connaît tous, ces petites actions, ne pas faire couler l'eau, recycler, simplement laver une salade, la mettre directement au jardin pour l'eau de lavage, ou isoler ses tuyaux pour qu'on ait de l'eau chaude rapidement au lieu d'attendre trop longtemps pour que l'eau arrive. Et puis, laver sa voiture dans des stations de lavage. Alors, c'est peut-être plus coûteux qu'à la maison, mais ça consomme beaucoup moins d'eau. Donc, c'est des tout petits gestes. Il n'empêche qu'on est dans un territoire qui manque d'eau. Je le rappelle, on est sur une zone qui est en déficit d'eau. On consomme plus d'eau que le territoire n'en a. Donc, on est quand même dans une zone de tension. Ces zones-là, elles ne sont pas partout en France. Ces zones qu'on appelle les ZRE, donc les zones de répartition des eaux. Et on a des efforts très importants à fournir. Et notamment, il est attendu que tous les secteurs, que ce soit agricole, donc raccordé à l'eau potable pour la partie domestique et puis industrielle, qu'il y ait moins 15% dans les consommations d'eau. Ça, c'est ce qui est attendu pour le territoire. Et c'est important en termes de résultats attendus.
Vous disiez justement qu'il y avait des tensions, ce qui amène une autre manière de vivre et une autre manière de travailler également. Est-ce que vous avez les outils justement pour appliquer ces normes de consommation ?
Alors, les outils pour appliquer les gestes au quotidien, c'est se rappeler collectivement tout ce qu'on peut faire, être vigilant ensemble et puis oser se rappeler qu'on est dans ce territoire avec cette contrainte. Donc on voit les efforts à la maison, on voit les efforts au jardin, donc déjà individuellement. On voit que par exemple, si on a une piscine, ce n'est pas grave, c'est même agréable, mais il faut la remplir avant le manque d'eau, donc avant le mois de juin. Il y a des gestes comme ça qui peuvent soulager le territoire. Et puis après, il y a sûrement des efforts de la part des collectivités à faire, c'est-à-dire être source d'exemplarité, être modèle. Par exemple, un rond-point irrigué avec des espèces végétales qui consomment de l'eau, on peut imaginer qu'on peut faire mieux et essayer de proposer des espèces qui ne consomment pas d'eau, voire qui sont issues de territoires ou même ici, des espèces qui sont issues d'ici et qui n'ont pas besoin d'eau et pas besoin d'être irriguées pendant l'été et qui permettent de dire bon, bah, on peut faire ça à la maison, peut-être dans notre jardin, on peut aussi prendre des espèces qui résistent à des sécheresses, mais qui résistent aussi au gel l'hiver. Donc après, il y a tous ces efforts. Est-ce qu'une collectivité peut, par exemple, accueillir des toilettes sèches? C'est possible, pour se rendre compte qu'une toilette sèche, c'est pas que une toilette sèche artisanale ou possiblement ça peut être mal mis en œuvre et qu'il y ait des odeurs. Une toilette sèche, aujourd'hui, on a beaucoup de bâtiments publics en France qui sont équipés de toilettes sèches, qui accueillent du public dans des espaces qui sont convenables, qui sentent bon, qui sont agréables. Et c'est quelque chose qu'on peut promouvoir aujourd'hui. Et je pense que les collectivités qui sont... Qui peuvent être source d'exemplarité, il faut le faire, effectivement. Que ce soit en termes d'irrigation juste des jardins publics, on peut faire ou recyclage d'eau de pluie. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre.
Est-ce que l'assèchement des fontaines, par exemple, à Die, dans la ville de Die, sont justement des conséquences de cette politique d'économie de l'eau, je dirais?
Alors probablement, après chaque fontaine, elle a son fonctionnement différent. Est-ce qu'elle est à circuit fermé, est-ce qu'elle est à circuit ouvert, dans quel espace elle rejette, quelle eau elle prend. Donc c'est vrai que chaque fontaine a un fonctionnement différent. Maintenant, le territoire, depuis ces 7 dernières années, est sujet à des arrêtés sécheresse. Ce soir, par exemple, le CDE, donc la commission de l'eau au niveau départemental, donc c'est une sorte de comité sécheresse, se réunira ce soir pour débattre si finalement les indicateurs que sont le niveau des nappes ou le niveau des cours d'eau ont évolué depuis le mois d'avril. Et est-ce qu'il faut qu'on engage un niveau supérieur? Aujourd'hui, par exemple, on est au mois de juin, on est déjà en état de vigilance depuis avril, donc on est dans un espace qui est déjà le niveau 1 de la sécheresse, donc on a des régulations. Donc ces 7 dernières années, on était dans des niveaux d'alerte, voire alerte renforcée, et donc évidemment, les fontaines ne devaient plus être alimentées, comme beaucoup de prescriptions, comme l'interdiction d'irriguer. Alors on voit bien qu'à l'échelle, évidemment, on ne peut pas contrôler chez tout le monde. On ne peut pas dire, tiens, tu n'as pas le droit de contrôler. Il en va d'un engagement volontaire. C'est-à-dire on doit aujourd'hui être conscient qu'on partage un territoire ensemble. On ne peut pas attendre qu'on contrôle chez nous pour ne pas irriguer. Si aujourd'hui on a l'information, alors on voit qu'il y a des difficultés à transmettre l'information sur les arrêtés sécheresse et notamment sur les actions interdites, mais quand on a l'information, on peut essayer de sentir l'engagement collectif et l'intérêt collectif qui se joue derrière. Donc ça me semble assez important et c'est quelque chose qu'on a sûrement ravivé ensemble, l'intérêt collectif, pour essayer de protéger notre territoire, notre espace de vie, parce que le jour où il n'y a plus suffisamment d'eau, on les connaît les conséquences d'un territoire sans eau, c'est qu'il faut le quitter. On n'en est pas là, mais aujourd'hui, le SMRD, par exemple, a travaillé sur ce qu'on appelle les ressources stratégiques. Donc on étudie les ressources pour les générations futures, pour l'eau potable. Ça a un impact s'il faut les protéger en quantité ou en qualité sur l'urbanisme, c'est-à-dire c'est des zones qu'on ne peut plus urbaniser comme on le souhaite, mais c'est des choses qui sont engagées. Donc le but, ce n'est pas d'avoir peur, c'est que derrière, il y a quand même des actions qui sont prévues pour les générations futures, mais on est dans un contexte incertain avec le changement climatique. On voit que les pluies se distribuent différemment sur l'année. Ça a un impact évidemment sur l'agriculture, mais aussi sur toute la gestion de l'eau à l'année.
Et d'ailleurs, vous avez des données sur l'évolution de la pluviométrie depuis quelques décennies, par exemple. Vers quelle tendance l'eau s'amenuise, par exemple?
Les tendances ne sont pas très claires. Il y a vraiment des évolutions, et puis des évolutions de la pluviométrie dans le temps... elles ont toujours été présentes. Alors, elles ont toujours été présentes, on l'a mesuré soit indirectement ou directement, mais c'est vrai qu'après, on n'a pas les mêmes outils de mesure, c'est assez récent, donc on n'a pas une chronique de mesure très très longue. Il n'empêche qu'on voit surtout, c'est le réchauffement qu'on mesure le plus. Et là, en termes de réchauffement, c'est important. J'en profite pour rappeler que nos collègues du laboratoire du CNRS travaillent sur le changement climatique sur le bassin versant, qu'il y aura une réunion le 18 juin prochain à 10. Et je me rappelle plus de l'horaire, mais on va l'afficher sur notre site internet, donc vous pourrez avoir l'information. Donc on a quand même des scientifiques qui travaillent spécifiquement sur notre bassin, ce qui est aussi agréable. On travaille avec eux, comme beaucoup de gestionnaires sur le territoire. On est bien dans l'attente de leurs résultats, parce qu'il est évident qu'on aimerait mieux connaître le futur. Je crois que les données, on essaie de les traiter, mais on ne bénéficie pas d'une grande chronique.
Alors ça, c'est plutôt l'impact dû au changement climatique. Maintenant, ce que je voudrais savoir aussi, c'est par rapport à la marque de l'homme sur l'eau, sur le territoire, en premier lieu, le tourisme. Quelle est la politique à suivre à l'avenir en fonction du tourisme ?
Le tourisme, il a été abordé dans le dernier SAGE comme assurer un tourisme vert, donc un tourisme avec le moins d'impact sur l'environnement. Il est clair que c'est une source d'économie pour le territoire important, mais il est clair aussi qu'il y a un impact sur la consommation, donc une demande en eau très forte, un rejet d'eau, et puis sur les pratiques. Mais les pratiques... Là, on ne peut pas les limiter aux touristes. On sait qu'il y a les personnes, les résidents, ça s'applique aussi à la baignade de manière régulière et sur des plages beaucoup plus larges d'ailleurs. Donc du coup, le tourisme, on l'a senti, par exemple, moi je l'ai ressenti lors des réunions publiques. Présent, c'est une problématique qui a été très présente dans le Diwa notamment, plus que dans la zone qu'on appelle nous médiane autour de Saillant, et puis dans la zone aval ou moins présent. Là, les revendications qu'on a beaucoup entendues, c'était l'impact sur les infrastructures, notamment sur l'eau potable et l'assainissement, c'est-à-dire qu'une commune de environ 50 habitants se retrouve avec une station d'épuration dimensionnée pour 300 habitants, parce qu'il faut bien traiter l'eau. Donc ce surcoût n'est pas forcément impacté sur les touristes directement, va très souvent sur les habitants. Donc c'était ça qui était en question. Je ne dis pas que c'est résumé à ça. Aujourd'hui, le tourisme, le SMRD, a engagé ces dernières années ce qu'on appelle un schéma de cohérence pour connaître l'impact des activités de loisirs, donc pas seulement le tourisme, mais de loisirs sur l'eau. Donc sur les milieux, l'impact sur les milieux. Il en ressort que, a priori, plus de 80% des impacts mesurés sont issus de la baignade, non pas du canoë ni du canyoning. Alors après, le canyoning, de manière raisonnée, ça va. A priori, il y a eu des propositions de canyoning avec une grande fréquentation. Donc là, on peut localement mesurer peut-être un impact plus fort. Mais globalement, les impacts sur les milieux liés aux activités de loisirs sont portés par la baignade. La difficulté, c'est que les baigneurs, c'est une population qui n'est pas organisée, comme on a la Fédération des loueurs de canoë, comme on a la Fédération des pêcheurs. On n'a pas une fédération des baigneurs, donc c'est un public qui n'est pas facile d'accès pour les usages, pour parler de pourquoi on ne fait pas du feu en bord de rivière, pourquoi on ramasse ses déchets, pourquoi on ne peut pas uriner n'importe où quand on atteint une certaine fréquentation. Voilà, c'est des questions. Pourquoi ne pas utiliser les barrages de galets et quel impact ça a sur la rivière et sur le milieu. Donc, c'est ces questions-là. Donc ça, c'est aujourd'hui, on sent quelque chose qu'il faudra aborder avec les élus. On sait que c'est assez difficile parce que les compétences sont distribuées entre différents organismes publics, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et que ça implique une complexité pour la mise en œuvre des projets.
Quel est l'engagement du public sollicité justement avec cette nouvelle révision du SAGE ? Est-ce que vous souhaiteriez amener le public à un raisonnement autre ?
On a été à la fois déçus de la fréquentation du public sur les réunions publiques, parce qu'on peut imaginer que ce soit pour le projet SPAR de 3 ans ou cette nouvelle concertation préalable, on a quand même un bassin de 50 000 personnes. Donc on a sur le projet SPAR environ 400 personnes qui ont participé, et là une centaine sur cette phase de concertation. et à la fois félicité par tous les professionnels de la participation du public au niveau national. C'est-à-dire qu'encore ce matin, on a été accompagné par des garants de la participation, donc qui dépendent de la Commission nationale du débat public, qui nous ont encore dit « vous êtes un modèle en termes de participation citoyenne, votre engagement est exemplaire, on n'a jamais vu autant de personnes, autant de respect de leur participation ». Et ça, à l'échelle nationale. Alors, c'est quand même perturbant, parce que pour nous, on savait que notre bassin est de 50 000 personnes, on restait quand même sur moins de 5% de participation, ce qui, pour nous, est très, très faible. Et à la fois, à l'échelle nationale, a priori, on n'avait jamais atteint un temps de participation. Prenons l'exemple du projet SPAR. Aujourd'hui, on en est à notre 6e publication scientifique nationale et internationale. Les scientifiques regardent cette expérience parce qu'on a atteint un niveau de participation exemplaire. Alors, c'est toujours surprenant. Les sources d'explication sont que finalement, on connaît, je pense, mal la participation citoyenne. On a l'habitude de communiquer, et ça, c'est le niveau informé. Donc, on envoie, par exemple, une lettre d'information à 5000 personnes et on estime qu'on a touché 5000 personnes. Combien l'ont lu? Combien l'ont intégré? Donc ça, c'est une information. Après, on a le niveau 2 qui est la consultation. Donc, on demande à chacun de donner son avis. On dit oui, non, ou quelques éléments. Et ça, c'est la consultation. Et le niveau 3, c'est la participation citoyenne, c'est-à-dire qu'on demande à des personnes de venir travailler. Donc déjà, de prendre du temps gratuitement, de donner son avis, mais aussi d'échanger avec les autres sur son avis et d'élaborer ensemble quelque chose, voire de décider. Et donc là, c'est quand même un temps qui est très précieux. Et c'est pour ça que nous, on attendait comme une campagne de communication, d'atteindre des milliers de personnes, mais finalement, on était à un niveau bien au-dessus. On n'était même pas dans une consultation, on était dans une participation citoyenne. Et c'est assez récent, finalement, la participation citoyenne, c'est-à-dire de travailler avec des personnes pour de travailler comme on travaille avec des techniciens et des élus. Et c'est vrai que, finalement, tout le monde peut bénéficier d'éléments très importants. Et puis, le fait de croiser les regards est vraiment une valeur ajoutée très importante. Et puis pour finir, le niveau 4 serait de décider ensemble. Alors c'est un niveau qu'on n'a pas atteint, qu'on n'a pas aujourd'hui comme objectif, mais ça serait que la population puisse décider au même titre que les élus. Donc on n'est pas du tout là, mais on est quand même sur un niveau 3 sur 4. C'est vraiment important.
Justement, l'implication du public, je pense qu'il y en a une certaine au niveau du DIWA, hein, par rapport à l'eau. Est-ce que je me trompe ?
C'est vrai qu'on a organisé des réunions locales entre Laval, au niveau de Livron-Loriol, la zone médiane et puis le DIWA, et on a toujours eu une forte fréquentation dans le DIWA, et ça, on savait que le public allait être là de manière toujours agréable et constructive, et ça a été toujours, toujours chouette. C'est à la fois très agréable et en même temps, on regrette pour la zone aval, qui est quand même la zone la plus peuplée du territoire, largement la plus peuplée, qui est concernée par d'autres problématiques, et notamment celle des inondations, et qu'on n'arrive pas à toucher facilement parce que d'autres outils de communication, une population qui se comporte différemment, une coupe plus urbaine, on va dire, que l'autre partie du territoire. Et donc, il nous faudrait développer d'autres stratégies de communication. Et par rapport au public, j'en profite pour dire que suite au projet SPAR, la commission locale de l'eau, donc la clé de la Drôme, a décidé de modifier son règlement intérieur et d'accueillir le public lors de ces réunions. Par inscription. Donc comme ça, pour l'organisation, ça nous permet. Donc chacun peut contacter le SMRD. Nous, on transmet l'information des réunions, soit par le Facebook, soit sur le site internet ou par la presse. Ça dépend des réunions. La semaine prochaine, mercredi 19 juin à 14h, on a une nouvelle réunion qui notamment sera le sujet de validation de cette nouvelle stratégie. On aura évidemment le résultat de la concertation avec les garants et puis d'autres thèmes qui seront abordés. Donc j'en profite pour tous ceux ou celles qui veulent participer ou observer simplement ces réunions, qu'elles puissent contacter directement le SMRD au 04 75 21 85 23. J'en profite, voilà. Et sachez que si vous avez besoin d'informations sur la gestion de l'eau d'une manière générale, toute question est à prendre et à comprendre. Donc n'hésitez pas à nous transmettre vos interrogations, on sera toujours là pour y répondre.
Alors, toute cette bonne volonté, qu'en est-il lorsque, par exemple, les finances ne suffisent pas ?
Alors qu'en est-il quand les finances ne suffisent pas? Il est clair que c'est un des freins. Par exemple, on a toutes ces listes d'actions issues du SAGE à mettre en œuvre. Et très souvent, l'étape d'après dans la mise en œuvre, c'est la recherche de financement. Donc c'est aux porteurs de projets, que ce soit la commune, la communauté de communes ou le SMRD, mais pas seulement, hein, les fédérations par exemple de pêche ou les irrigants vont aussi chercher des financements. Et c'est un travail bureaucratique important, c'est-à-dire, mais c'est aujourd'hui le nerf de la guerre, donc comme toujours. Et puis ça demande des personnes compétentes dans la stratégie de financement. Il faut aller chercher le financement en fonction des problématiques. Le financeur principal reste l'agence de l'eau pour nous, SMRD, le département soutient et puis les intercommunalités soutiennent aussi le SMRD. Mais parfois, on peut prendre le cas des décharges. Par exemple, aujourd'hui, il reste sans résultat. Donc, pour rappel, la décharge donc, de Pantet est une ancienne décharge de la commune qui a été peut-être enfouie comme beaucoup de décharges dans les communes. Et c'était d'usage jusqu'aux années 80, je pense. Et donc, cette décharge s'est trouvée à proximité du lit majeur de la rivière. Lors d'une crue de cet hiver, elle a été mise à nu et a engagé le déversement de certains déchets dans la rivière. Donc, prenons cet exemple qui n'est pas simple. C'est que la décharge aujourd'hui est sur le domaine privé de l'État. Elle appartenait à la commune. Les déchets actuels sont sous la responsabilité de la communauté de communes du Diois, mais ce ne sont pas des déchets actuels. Et l'impact, tout impact sur la rivière est de la responsabilité du syndicat mixte de la rivière Drôme. Donc dans ces cas, le syndicat avec les services de l'État ont rapidement essayé de mettre des petits épis pour limiter l'impact, le temps de chercher les financements, et a averti avec la CCD et la commune de Pontet, monsieur le préfet du contexte, en attendant de savoir qui allait porter la responsabilité et où trouver les financements. La décision aujourd'hui est portée vers le SMRD pour qu'on puisse mettre en œuvre une première étude à nos frais sur la caractérisation de cette décharge et de celle de Vercheny qui a été mise à nu depuis. Donc déjà caractériser les déchets, savoir comment du coup on doit les enlever parce que selon les déchets et leur nature, on doit engager des actions différentes, d'après la loi. Donc on espère qu'on ne trouvera pas trop de déchets trop dangereux dedans, parce que les coûts vont être évidemment aussi importants que les déchets sont dangereux. Et puis après, il reste à arbitrer de qui financera. S'il faut excaver les décharges, il faudra excaver. S'il faudra protéger, éviter le ruissellement, il faudra le faire. Mais ça aura un coût. Souvent, c'est des coûts en centaines de milliers d'euros. Et dans ces cas-là, il faudra trouver un financeur. On sait aujourd'hui que l'agence de l'eau n'est pas possiblement financeur sur ce projet. Et donc, il faudra trouver d'autres financements. Et c'est très limitant.
Oui.
C'est très limitant, mais c'est aussi une urgence du territoire. Donc, aujourd'hui, ne serait-ce que de lancer cette étude aux frais du SMRD, c'est quelque chose qui n'est pas provisionné. Donc du coup, forcément, ça a un impact. Mais mettre en place des travaux à quelques centaines de milliers d'euros, ce n'est pas possible ni pour une commune, pour une intercommunalité, ni pour le SMRD.
Faudrait-il se tourner plutôt vers des financements privés, par exemple?
Alors je ne crois pas que ce soit d'actualité aujourd'hui. Il faudrait vraiment épuiser toutes les possibilités de financement public et je pense que, enfin j'espère qu'on va y arriver très rapidement. L'approvisionnement d'eau potable, on n'en est pas à une inquiétude en termes de quantité. Nous, on prévient parce qu'à l'échelle d'un SAGE, on travaille sur une portée beaucoup plus longue qui est plus de 30 à 50 ans. Donc là, nous, on alerte sur la quantité d'eau. Aujourd'hui, en termes de priorité, si on est dans un cas de sécheresse, il y a quand même des usages dits de confort qui vont être limités ou une régulation de l'irrigation agricole et des prélèvements pour l'industrie. Donc les usages dits de confort pour nous, ça va être l'irrigation du jardin, par exemple, le remplissage des piscines ou la station de lavage pour les voitures. Donc ça va être tous ces premiers points où petit à petit on va limiter jusqu'à avoir des interdictions beaucoup plus fortes, donc la fermeture des fontaines ou ce genre d'action. Et puis, je ne crois pas qu'on puisse atteindre aujourd'hui sur le territoire un manque d'eau au point d'alimenter par camion-citerne, en fait, parce qu'il y a encore des territoires en France où l'été, les forages, donc la pompe, se retrouvent au-dessus du niveau de la nappe Et à partir de là, il faut alimenter avec des camions. Donc les coûts sont très importants. Et je pense que c'est une situation à éviter parce que les coûts indirects ou directs sont très forts. Donc on n'en est pas là. En termes de contrôle, on n'a pas des outils de contrôle. Alors c'est lors de la participation citoyenne, on a eu beaucoup de propositions comme une tarification non plus dégressive mais progressive. C'est-à-dire plus on consomme, plus on va payer. Voire, alors cela nécessiterait des compteurs électroniques qu'on puisse gérer à distance finalement pour se dire, bon bah c'est 120 mètres cubes par foyer par an, vous allez dépasser, on bloque. Ça c'est l'extrême, mais ça a été discuté lors des décisions, se dire bon bah comment on pourrait ne serait-ce qu'avoir un affichage beaucoup plus présent sur notre consommation pour se rendre compte de la consommation d'eau de chacun. Donc on n'en est pas là parce que équipé par ces compteurs, ça serait beaucoup plus une action très importante et coûteuse à mettre en œuvre, mais il faut juste imaginer que l'eau potable prélevée sur le territoire, elle doit être utilisée parcimonie, tout comme l'eau d'un forage, par exemple. Maintenant, on a des solutions, comme récupérer l'eau de pluie chez soi, c'est possible. Au jardin, il ne faut pas oublier que biner ou couvrir un sol, ça quand même limite les besoins en irrigation. On voit que l'irrigation goutte à goutte ou par des tuyaux poreux, on va limiter les besoins en eau. Ou l'arrosage, évidemment, tôt le matin ou tard le soir, on va avoir des... Donc il y a tous ces gestes, et je pense que ces gestes cumulés des uns et des autres, que ce soit à la maison ou au jardin, sachant qu'il ne faut pas oublier que les professionnels autour sont aussi dans des gestes et des actions fortes, je rappelle, pour l'agriculture ou pour l'industrie, ils sont engagés, ils sont dans ces actions-là. Donc ne pas se sentir seul. Et puis pour les diminutions d'eau pour l'alimentation en eau potable, le choix qui a été opéré, c'est simplement de vérifier déjà que l'ensemble des gestionnaires d'eau atteignent les 70% de rendement sur les réseaux d'eau potable. Donc ça, c'est la loi depuis 2012. Donc tout gestionnaire de réseau d'eau potable doit éviter les fuites sur son réseau. Donc 70% de rendement, ça veut dire 30% de fuites. Eh bien, aujourd'hui, on ne l'a pas atteint. Et dans notre territoire, on s'est donné pour objectif 80% de rendement, donc 20% de fuites. Donc si, au lieu d'imposer à chacun d'investir individuellement, on s'est dit, bon, la première chose, c'est déjà que les équipements collectifs, que chacun paye, doivent être efficaces. Et après... Peut-être on pourra atteindre un niveau plus engageant, parce que c'est toujours un rapport efficacité-coût. On n'est pas le seul territoire en France à être concerné par ces problématiques de quantité. Donc on a un œil aussi sur les autres territoires, voire des territoires plus tendus que le nôtre, pour voir quelles sont les actions les plus efficaces à préconiser. Et on sait qu'aujourd'hui, les réseaux d'eau potable qui ont le moins de fuites, on gagne en efficacité et en volume sauvé, on va dire.
L'heure passe vite et nous sommes à la fin. Quels sont les contacts où vous avez cité un numéro de téléphone tout à l'heure, mais vous avez aussi un site internet, justement pour informer les auditeurs de par exemple de futures réunions ou de rencontres autour de l'eau.
Oui, alors le site internet c'est www.rivière-drome-du-6.com. Vous aurez toute l'information. La plus récente, je dis la plus récente parce qu'on essaie de mettre à jour, donc ce site internet sera mis à jour d'ici la fin de l'année normalement. Mais il y a déjà beaucoup d'informations et qui est toujours aussi pertinente. Et puis on met à jour aussi l'actualité pour les réunions. Si vous avez besoin de nous contacter, il y a une adresse email qui est info@smrd.org. Et puis le numéro de téléphone, le 04 75 21 85 23.
Claire Petitjean, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps donc pour nous parler de l'état de l'eau et de la rivière Drôme en pays d'Iwa, par exemple.
Merci de votre accueil.
Allez, bonne journée, au revoir. I like it when you ask for me. You mean the compost suits your room.
to my cosmic rocket crew. You used to read the Bible. Now you're going travel. Still machine will be that world. It's in the Bible. You're my Rishi Yogi. Much love.